Je comprends. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Jésus veut nous combler. Incontestablement, s'abandonnant, il va nous délivrer. On le chante, là, le dimanche, dans la réunion. Et quand on est dans une position comme ça, là, pris au piège, dans une situation, on est capable de réagir dans la même idée, de faire confiance que le Seigneur a quelque chose? On le sait que Dieu, il a l'univers dans le creux de sa main, puis il n'a même pas les mains pleines. Tout est là, en dedans. Là, il fait marcher tout le système. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il peut régler ces petites affaires-là de terminal qui ne répondent pas, comme tous les autres problèmes, sauf que, qu'est-ce qu'on a clairement dit tantôt, s'il y a des délais avant la réponse, dans l'attente, des fois, on se décourage. On commence à douter, on commence à s'inquiéter, à peut-être à faire de l'angoisse, à s'angoisser. Des fois, il y a des attentes. Faut pas s'en faire, faut faire confiance, puis attendre. Il y a un verset qui dit « Heureux ceux qui attendent en silence le secours de l'Éternel. » Pourquoi qu'ils disent en silence? Pour s'éviter de commencer à critiquer. Quand on rouvre la bouche, on commence à se plaindre et à confesser des affaires, des fois, contraires à la prière qu'on vient de demander deux minutes avant. Puis là, ben, on pense qu'on va être exaucé, mais on est un homme qui branle dans le manche dans notre foi. Faut pas être des gens « je crois plus, je crois plus, on croit ». On reste sur le bord « je crois » et « j'attends » en silence. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu. Le Seigneur, il forme les gens dans ces situations-là, parce qu'à la prochaine situation qu'ils vont vivre, ils vont réagir encore par la foi, en confessant le nom de Jésus, ce nom-là qui brise les chaînes, qui brise les liens, qui guérit, qui délivre.
Amen. Amen.
C'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est le nom dessus de tout nom. Quand on dit que Dieu veut notre bien, là, Dieu est si bon, il veut prendre soin de nous, c'est vrai. Même ceux qui sont malades puis qui disent oh, ben moi, ça fait tant d'années que je suis malade, puis ça fait tant d'années que j'ai des problèmes, j'ai perdu ma job, j'ai ici, j'ai ça. Faut que tu reconnaisses quand même à la base que Dieu est bon. Puis tout ce qui nous arrive, là, toutes les circonstances qui nous arrivent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même si ça semble être une situation difficile. On regarde la vie, comment est-ce qu'elle marche aujourd'hui, là, les maladies, la mort, les problèmes, les guerres, les ci, les ça. Puis on se dit, où est-ce qu'elle est l'amour de Dieu dans tout cela? On se pose des questions. C'est un peu à ça que je vais parler aujourd'hui, mais s'attendre principalement à des exaucements de prière dans toutes ces situations-là. Dieu, depuis le début de la création, il a voulu assurer à ses créatures une longévité sans fin. C'était pas dans le plan original de que les gens meurent puis se retrouvent dans l'étang de feu. Depuis le début de la création, Dieu avait fait quelque chose, il a mis un système en place pour assurer à l'homme une vie sans fin. Quand on regarde Adam et Ève, quand ils ont été créés dans le jardin d'Éden, ils avaient déjà prévu un arbre qui leur assurait que s'ils mangeaient de cet arbre-là qui était là, ça leur donnait d'être en santé continuellement, sans connaître le vieillissement, et pouvoir perpétuer une vie sans fin. C'était le plan original de Dieu. Si on voit ça dans Genèse 2:9, des fois, on se pose des questions. Oui, c'est vrai, il y a réellement eu un arbre qui assurait la vie éternelle sur cette terre, dans le corps qu'on a présentement. Mais il y avait un plan, Dieu, dans tout cela. Puis on va regarder ça. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu a créé les êtres humains, il les a placés dans un jardin où ce que c'était juste des bonnes affaires, sauf une. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'autre verset, un petit peu plus loin, verset 16, il dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Dieu, à la base, dans son plan, c'est un plan de bonté, de générosité, de donner toutes les arbres qui poussaient. C'était toutes des choses belles, agréables, bonnes, qui assuraient le bonheur aux créatures qui étaient là. Puis en plus, il dit que tu pourras manger de tous les arbres, ça l'incluait l'arbre de vie qui permettait d'avoir une restauration dans le système, puis de vivre continuellement dans un état de jeunesse, de santé, puis cet arbre-là procurait une guérison, puis elle régénérait les cellules du vieillissement, puis il pouvait assurer une vie éternelle. C'était ça le plan original de Dieu. Dieu ne voulait pas que les créatures meurent, il voulait que les gens vivent. Puis ce même arbre-là, pour nous redonner encore l'idée que Dieu pense encore à donner une espérance à ses créatures, puis les assurer comme une promesse de longévité éternelle, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, j'en ai parlé un peu l'autre jour, mais dans 22 au verset 1, il dit, « Regardez bien la vision de Jean. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Qu'est-ce qu'on veut comprendre dans ce texte-là? Ce texte-là s'adresse nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans le texte, dans l'histoire, ça dit que le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face, tout le ciel d'à présent s'est disparu, et Dieu créa un nouveau ciel et une nouvelle terre qui va être pour vivre éternellement dans ce système-là, un système différent de celle d'aujourd'hui, parce que la Bible a dit qu'il n'y aura pas de mer, il n'y aura pas de soleil, c'est Dieu lui-même qui va éclairer de sa gloire, la ville sainte qu'on voit, elle va être là, puis il va y avoir un autre système de création que Dieu va faire, on ne sait pas tous les détails, mais l'important qu'on doit savoir, c'est que quel est un arbre encore qui est là, c'est un arbre de vie qui est alimenté par le fleuve qui coule de son trône. Donc, provenant de Dieu, il sort un fleuve. J'ai expliqué la semaine passée, de deux semaines, ma prêche, que le fleuve qui sort de Dieu, c'était le Saint-Esprit, puis qui sort de ça un arbre qui produit la vie, la santé, la guérison et un état de vie éternelle. Ça ne sera pas dans notre corps ici qu'on va vivre dans cette place-là, c'est dans un corps ressuscité, mais qui n'aura plus jamais la mort, plus de souffrance, plus de maladie, plus de larmes. Puis selon les différentes hypothèses qu'on peut ressortir, c'est que ce n'est pas réellement un arbre pour nous autres. Parce que la Bible nous assure déjà la vie éternelle par son Fils. Puis on va avoir un corps ressuscité. Peut-être que Dieu veut faire encore d'autres créations, de d'autres créatures, puis qu'il y aura un autre système qui se vivra. Mais le point n'est pas là. Le point est que depuis le début, les premiers versets de la Bible parlent d'un arbre de vie. Puis les derniers de la Bible parlent aussi encore d'un arbre de vie qui assure la longévité. C'est ça qu'il faut retenir. Hein? OK. C'est ça qu'il faut retenir. Et maintenant, là, si Dieu, son plan était de guérir tout le monde puis d'assurer la longévité, si c'était le plan de Dieu qu'on soit en santé puis qu'on soit dans ce qu'il avait promis depuis le début puis qu'on voit encore à la fin, pourquoi qu'on voit autour de nous de la maladie, de la souffrance puis la mort? Quand ça nous arrive de vivre un décès ou de vivre une maladie qui est grave, ou que quelqu'un de notre famille qui a une maladie grave, on comprend pas, puis on pense toujours, ben Dieu est en train de te frapper, puis tu penses rejeté de Dieu, que Dieu t'a oublié, que Dieu n'exauce pas tes prières. Pourquoi que c'est là? Faut le comprendre pour être capable de l'expliquer aux autres. Mais c'est une conséquence directe du péché d'Adam et Ève. Donc, la privation de manger de l'arbre de vie. Si le monde sont malades aujourd'hui, c'est à cause qu'on est privé d'en manger de cet arbre-là qu'il a créé au début. C'était pour cette planète, cet arbre-là. Venons à un autre sur l'autre bord, mais c'est pas celui-là qu'on s'inquiète pour le moment. C'est aujourd'hui, pourquoi je suis malade si Dieu avait fait un arbre de vie? Mais c'est à cause du péché d'Adam et Ève qu'on a été privé. La Bible a dit dans Genèse 3, 22, suite à leurs conséquences qui ont désobéi, pas suite à ce qui est mangé. Manger, ce n'est pas encore grand-chose. C'est le fait de transgresser l'ordre de Dieu qui a amené la conséquence qu'on vit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Même après le péché, Adam et Ève auraient pu continuer à en manger si Dieu l'aurait laissé faire. Et il aurait continué à perpétuer de vivre une vie sans fin, sans maladie, sans souffrance, sans vieillissement. Mais Dieu l'a interdit. Là, on se demande pourquoi la maladie est là. C'est juste parce qu'on ne peut plus manger de l'arbre de vie. C'est pour ça que la maladie est là. C'est une conséquence directe de la privation de manger de l'arbre de vie. Quand que Adam et Ève ont péché, Dieu leur avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. On ne voit pas qu'ils sont morts physiquement, instantanément, mais une des conséquences d'avoir désobéi, c'est qu'il est mort spirituellement. Est-ce quelqu'un qui sait c'est quoi que ça veut dire, mort spirituellement? Il a perdu l'innocence, il était pécheur, ça a fait qu'il y a une séparation en Dieu. Dieu pouvait encore y parler, il pouvait encore parler à Dieu, mais il y avait une séparation. Le mot mort veut dire séparé. C'est ça qui est le sens. Quand une personne meurt physiquement, elle est séparée de son corps. C'est ça pour ça qu'on dit qu'il est mort physiquement. Son âme est sortie de son corps, il est séparé. Mais spirituellement, devant Dieu, Adam et Ève étaient séparés. Puis Dieu ne voulait pas assurer une vie éternelle à des gens séparés. Il a dit, empêchons-le maintenant. Il y a eu d'autres conséquences aussi quand Adam et Ève ont péché. Ça, c'est Genèse 3, 16. Les autres conséquences qu'on va lire, puis là, on se demande pourquoi, un exemple, la femme souffre quand elle accouche. C'est une conséquence directe du péché d'Adam et Ève. On se demande pourquoi il y a comme l'homme domine sur les femmes. C'est une conséquence directe d'Adam et Ève. Pourquoi que j'ai de la misère à gagner de l'argent, puis à gagner mon pain, puis je suis obligé de travailler fort? C'est une conséquence directe d'Adam et Ève. Pourquoi quand je sème des champs, puis qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent, puis je suis obligé de sarcler tout le temps pour enlever les épines et les ronces? C'est le sol qui a été maudit, c'est une conséquence directe du péché d'Adam et Ève. On vit présentement dans un contexte maudit. Dans Genèse 3, ça dit, il dit à la femme, au verset 16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Ça a commencé là, les souffrances. Il n'a pas supposé d'en avoir de souffrance de l'accouchement. C'est une conséquence directe du péché d'Adam et Ève. Ça dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La domination, le feeling que l'homme il a dû faire du power trip et essaye tout le temps de dominer sa femme, ça vient du péché d'Adam et Ève. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, puis tu as mangé de l'arbre, au sujet je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. C'est l'ordre qui est le principal de l'histoire. Le sol sera maudit à cause de toi, puis c'est à force de peine que tu en retireras de la nourriture tous les jours de ta vie. C'est dur de gagner son pain. C'est une conséquence directe d'Adam et Ève. Puis elle dit, il va te produire des épines puis des ronces. Ça, c'est des craquias puis de la mauvaise herbe. En français courant. tu mangeras de l'herbe des champs. Dieu avait mis des beaux arbres, plein de beaux fruits qui poussaient. Il avait juste à le garder et à le cultiver. Il était privé de toutes les belles bénédictions qu'il avait dans le jardin. Puis là, il dit, tu vas la faire pousser toi-même ton affaire. Puis tu vas avoir de la misère à faire pousser. Puis là, tu vas manger du pain. Le pain, c'est la farine. Le blé, t'écrases. Puis tu fais des galettes à la farine ou des galettes au maïs ou des galettes à n'importe quoi. Au lieu d'avoir les beaux fruits qui poussent tout seul, tu vas avoir de la poudre, de manger des affaires secs. Mais il a pu s'en faire pousser pareil, mais l'idée, il était privé de toutes les belles bénédictions de Dieu. Dieu était bon en partant, mais c'est l'homme qui a pris un détour. Puis il dit, à la sueur de ton visage, tu en mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, puis tu retourneras dans la poussière. Là, il est en train de dire, tu vas suer pour gagner ton pain jusqu'au jour où ce que tu vas retourner à la poussière. Puis là, il est en train de dire, il va y avoir une élimination de ta personne physiquement. Tu ne pourras pas vivre dans cet état de maudit éternellement. Tu vas retourner à la poussière, il va y avoir une séparation, puis Dieu voulait régler d'autres comptes après. Ouch! On se demande pourquoi que ça va si mal que ça dans le monde. Ça vient tout de là. La sentence prononcée à Adam et Ève, ça s'est étendue sur tous ses descendants. Ça, on va aller voir un passage dans le Nouveau Testament, dans Romains 5, 16. Dans ce verset-là, là, c'est un verset clé pour, si vous voulez le souligner dans votre Bible, là, de 16 à 19. Ça nous explique vraiment l'enseignement de Paul, la position de Paul à propos des conséquences du péché d'Adam et Ève. Je ne parle pas nécessairement des conséquences de nos propres péchés, mais que les humains, présentement, vivent sous la conséquence des péchés d'Adam et Ève. On commence au verset 16, dans Romains 5. Puis là, Paul, dans son explication, est en train de mettre une comparaison entre ce que Jésus a apporté et ce que Adam et Ève ont apporté. Puis ça, là, dans les quatre versets qu'on va lire, on voit les deux images. Adam, ce qu'on a reçu en Adam, puis ce qu'on peut recevoir en Jésus. Il faut comprendre ce qui est écrit là. Il n'en est pas du don de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, ça parle d'Adam et Ève, car après une seule offense, l'offense d'Adam et Ève, que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Moi, ce que je veux vous poser dans ce verset, dans ce texte-là, c'est qu'est-ce qui découle d'Adam et Ève? Une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À cause qu'Adam et Ève ont péché, la mort a régné sur tous les siècles depuis le début de la création. La mort physique et la mort spirituelle règnent. Tout le monde passe par là, en général, sauf ceux qui vont participer à la promesse que Dieu a dit qu'il y aura un enlèvement, mais ça, c'est des exceptions. La règle générale, c'est que tout le monde passe par là, c'est à cause d'Adam. Après l'offense d'un seul, tout le monde sont condamnés à mourir, à être mort spirituellement et physiquement. Là, il parle encore, à plus forte raison, là, il parle de la bénédiction qu'on a en Jésus, de vivre par le don de la grâce. Verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Tous les hommes sont dans une condamnation à cause du péché de Adam et Ève. » Puis là, il dit de même, par un seul acte de justice, on peut avoir la justification qui s'étend sur tous les hommes à cause de l'œuvre de Jésus. Verset 19, « Comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam et Ève ont désobéi, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Ce qu'il faut retenir dans l'idée, pourquoi que c'est de même, à cause de Adam et Ève, une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Tout le monde était condamné, lui en partant et sa descendance. L'offense d'un seul, la mort régnait par lui seul. Une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. La désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Je veux juste m'arrêter sur le mot pécheur de ce texte-là. Là. Dans l'original, dans le dictionnaire biblique qui explique le mot grec qui était là pour dire le mot pécheur, là, comprendre le sens que tout le monde sont rendus pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire dans le mot grec? Le mot grec, c'est armatolos. Dans le dictionnaire biblique Strong, là, Louis II traduit ça par pécheur, pécheresse, condamnable, gens de mauvaise vie. Puis dans les différents synonymes, ben en anglais, ils disent sinner ou sinful. Puis dans les différents sens, là, le premier sens, c'est consacré au péché, un pécheur, une pécheresse. Non libéré du péché, c'est un autre synonyme. Particulièrement mauvais, méchant. Ça dit spécialement des hommes atteints d'un certain vice ou des crimes. Puis les percepteurs d'impôts dans le temps, ils étaient vus comme des hommes pécheurs, mais c'était ça le but. C'était du monde sale, pécheur, coupable, pervers, plein de vices, des hommes séparés de Dieu. C'est ça que ça dit dans le sens du mot pécheur. Donc, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. La masse en naissant, tu es déjà dans un état de condamnation, de la condamnation d'Adam, et tu es déjà sous tous les jugements d'Adam et Ève. Tu as de la misère à t'attouer d'accoucher avec douleur, et ça veut dire les souffrances physiques, ça veut dire la peine, le travail, la sueur, les mauvais résultats de ton travail comme des épines et des ronces, c'est toutes des conséquences d'Adam et Ève. Puis ainsi de suite, là, ramenez-les tout ce que je vous ai expliqué, la mort spirituelle, la mort physique qui attend tous les hommes, d'être dans un état de condamné, être dans un état appelé pécheur. La Bible a dit le monde entier sous la puissance du malin, puis dans d'autres versets qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, même dans notre conduite en vivant plus tard, on fait juste démontrer qu'on est déjà dans cet état-là. On n'a jamais pu sortir par nous-mêmes de cet état-là. Maintenant, depuis le début de la... qu'on est privé de l'arbre de vie qui nous guérit, nous sommes automatiquement assujettis aux souffrances physiques. C'est-à-dire, tu te casses un bras, avant tu aurais pu manger de l'arbre de vie, tchou, ça aurait guéri. Les peines, le travail, la difficulté qui viennent de la malédiction, si on aurait été dans la bénédiction, on aurait eu les fruits qui poussent tout seuls, quasiment, tu sais, que tout va bien, puis on est toujours en santé, puis avec ça, ça découle, on est toujours content, toujours heureux, toujours dans le bonheur. Là, c'est la difficulté, les peines. Puis en plus, les microbes, ça n'a pas été inventé. Il y a une grippe, là, ça n'a pas été inventé après le péché, ça. Ça, c'est la microbiologie, c'est la base de la création. Ça existait dans ce temps-là, sauf que quand il pognait un microbe puis il avait une maladie, il pouvait manger de l'arbre de vie puis être en santé, être guéri instantanément. C'était quelque chose qui est automatiquement soigné. Sauf que le fait qu'on est privé de ça, c'est normal que tu pognes le microbe aujourd'hui, tu en vis les conséquences, puis ton système, il combat comme il peut. Des fois, tu as besoin des antibiotiques. Tu sais, c'est normal, ça fait partie du système, mais d'un système qui est privé de la solution que Dieu avait donnée au début. La malformation physique, quand tu es au monde, tu as un handicap. Tu aurais pu prendre de l'arbre puis être guéri. Dieu y assurait la vie éternelle à toutes ses créatures. Mais le monde vient aujourd'hui à cause que mes parents n'ont pas été soignés, ont des défectuosités. Fait que la malformation physique, des fois, il y a de l'hérédité génétique qu'on reçoit, que dans notre famille, ils sont tous pris du cœur, ils ont un cœur plus faible, il y en a d'autres qui font tous du cholestérol, il y en a d'autres. Mais on aurait mangé de l'arbre, on aurait été soigné. Puis là, le fait d'en être privé, c'est normal que les gens passent à travers les maladies. Des fois, ça les amène à la mort. Puis même la mort, faut pas être surpris, c'est normal, parce que c'est la conséquence directe d'Adam et Ève. Fait que les hérédités génétiques, notre système qui se détériore, puis on reproduit toujours des enfants selon notre génétique. Faut pas s'attendre que si ça peut arriver, des exceptions, mais en général, tu reproduis, tes enfants te ressemblent, puis souvent, ils ont les mêmes choses que leurs parents. C'est naturel. C'est humain, c'est naturel. Plus les autres maladies imposées par le diable. Ça va mal dans le monde, mais il y a des maladies qui viennent pas de conséquences naturelles. C'est l'ennemi direct qui attaque à cause du que tout le monde entier est puissant. Fait qu'il y a des maladies que l'ennemi rend le monde malade. Jésus n'a guéri plein qui étaient des gens qui étaient des esprits qui rendaient aveugles ou sourds ou courbés, infirmes, tu sais. Puis toutes sortes de maladies qui existent, ça vient d'une attaque directe de l'ennemi, en plus des conséquences naturelles. Puis aussi, des fois, c'est à des jugements de Dieu, directement sur certains péchés que les gens peuvent vivre. C'est pas d'hier, ou c'est pas juste dans le temps d'Adam et Ève que Dieu a jugé Adam et Ève à cause de son péché, puis il y a eu des conséquences. Des fois, nous-mêmes, on a pu faire des choses qui déplaisaient à Dieu, puis ça nous a attiré de se faire taper. Tu sais, de recevoir, se faire ses ravisses. Puis dans le Nouveau Testament, là, il n'est pas contre ça quand il dit que le Seigneur juge et châtie ceux qui l'aiment, ceux qui reconnaissent. Donc, il y a des jugements par le Seigneur, des maladies, des souffrances qu'on aurait pu s'éviter si on marchait dessus dans les bonnes choses. Mais, là, c'est là qu'on commence à rentrer dans, y a-t-il quelque chose que Dieu a préparé pour qu'on puisse sortir de cette situation-là? C'est beau qu'on le sache que ça vient tout de là. Puis si on a des choses à demander ou à expliquer aux gens, on va dire que c'est des conséquences directes. Tout ce que tu vis là, c'est des conséquences directes du péché d'Adam et Ève. La réponse est là. Ça ne veut pas dire qu'à tous les fois qu'on était malade, que c'est un jugement de Dieu, ou si quelqu'un est né handicapé, que c'est un jugement de Dieu. Non, c'est une conséquence directe de la privation de l'arbre de vie. Fait que faut pas tout mettre une culpabilité sur tous les problèmes qui nous arrivent. Mais Dieu a préparé des solutions. Mais la première solution était comme une demi-solution. Je vais vous parler un peu de certaines promesses que Dieu voulait, que Dieu a données dans la loi. Parce que Dieu, il s'était fait un peuple, il lui a donné une loi, mais une loi qui était quand même très rigide, très sévère. Mais il y avait des bénédictions au bout, parce que si tu pouvais appliquer tout ce qui était là, tu avais des bénédictions. Bon, on va vous dire deux versets bien vite là-dessus. Exode 15, 26. Dieu, il promet à son peuple, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai point d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Déjà, Dieu commençait à donner une espérance aux humains. « Je te donne une loi. » Puis dans cette loi-là, si tu l'appliques, si tu la pratiques, je te garantis que je te frappe pas d'aucune maladie. Puis en plus de ça, je suis celui qui te guérit. Dieu, dans sa loi, avait commencé déjà à donner un espoir que tu peux te sortir des conséquences d'Adam et Ève. Un deuxième verset, Exode 23, 25, qui parle dans le même sens. « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Dans la loi de l'Ancien Testament, Dieu a commencé déjà à faire espérer en moi. Mais dans ce verset-là, on peut voir, je vous donne une loi, pratiquez-la, puis je vais vous soigner, je vais vous guérir, je vais bénir votre pain. Parce qu'on parle là qu'on était privé de la bénédiction du sol, mais dans la loi, on pouvait déjà commencer à recevoir la bénédiction du sol. Ça pouvait sembler être gloire à Dieu et on a une solution pour ça, comme alléger notre conséquence de notre condamnation qu'on a en Adam et Ève. On a quelque chose que Dieu commence à pourvoir pour qu'on sorte de cette situation-là par la loi. Il y a juste un petit hic. Puis ce petit hic-là, je vais vous lire un passage dans Hébreux. Puis dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que ces promesses-là, il n'y a pas grand monde qui a pu en profiter. Et vous vous demandez pourquoi? Alors regardez bien Hébreux 8, les versets 8 à 10. Dieu n'était pas content de voir le peuple juif de la manière qu'il fonctionnait. Puis là, il commence déjà à annoncer des choses. Mais ça, c'est un rapport fait par celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Ce qu'il comprenait, lui, de ce qui s'est passé avec la loi et toutes les promesses qui étaient dans la loi. Il dit, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai que la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans ce texte-là, c'est en train de nous dire que les promesses de la loi n'ont pas pu être profitables aux gens parce qu'il n'y a personne qui pouvait mettre en pratique toute la loi. La Bible a dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Où est-ce qu'on voit ça dans le Nouveau Testament, quand les apôtres ont compris le plan? Ils l'ont expliqué, l'apôtre Paul a dit, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien. » Ça veut dire qu'autrement dit, personne n'a pu appliquer la loi tout entière pour mériter, parce que ça méritait aussi, ça permettait aussi d'avoir la vie éternelle, parce que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça l'assurait le salut, ça l'assurait la guérison, ça l'assurait les bénédictions. Il n'y a personne qui pouvait vivre dans cette position-là. Mais déjà, Dieu annonçait la grâce qui s'en venait, une nouvelle alliance. Il voulait que les gens réalisent, là, je lui donnais la loi. Mais d'un sens, là, entre parenthèses, pensez pas de gagner quoi que ce soit par vos propres mérites. Si vous en lissez à dire, il faut que je pratique toute la loi pour arriver à être juste, pour obtenir la vie, puis obtenir les guérisons, puis obtenir la sécurité de Dieu, puis que Dieu pourvoie ma santé, puis à toutes mes affaires. Dans le Nouveau, là, dans Hébreux, c'est bien clair, puis pas juste dans ce passage-là, il y en a plusieurs qui le disent. Personne ne pouvait obtenir ces promesses-là, parce que tout le monde a désobéi à la loi, puis ils sont tous tombés sans malédiction. Une deuxième malédiction qui n'était pas celle de Adam et Ève, une bénédiction qui est tombée, que maudit est quiconque ne met pas toutes ces choses en pratique. Fait que même la loi augmentait la malédiction sur les gens. C'est fort. Ça a sauvé personne, puis personne ne pouvait la pratiquer, fait qu'ils sont tous retombés sur une autre malédiction. C'est pour ça que Jésus est obligé de devenir malédiction à notre place. Parce qu'il y avait une autre chose qui disait « Maudit quiconque qui est cloué au bois », fait qu'il a accepté de devenir maudit pour nous racheter de la malédiction d'Adam et Ève et de la malédiction de la loi. Dieu, là, quand il a dit « Voici, je ferai une alliance nouvelle, puis c'est moi qui va écrire les paroles dans leur cœur, c'est moi qui va faire l'ouvrage. » Tu vois que cette alliance-là n'est pas basée sur nos mérites, elle est basée que c'est Dieu qui va faire le travail. Gloire à Dieu! Déjà, dans ce temps-là, Dieu promettait, il y a un autre plan qui est là en parallèle, puis il y en a quelques-uns qui le voient, ce plan-là. Abraham l'a vu, puis la foi puis il fut imputé à justice. Les descendants d'Abraham, ceux qui marchaient dans les traces d'Abraham, pas automatiquement à cause de la chair, mais à cause qu'ils marchaient dans la foi, ils ont goûté aussi le salut. Les prophètes, ils ont goûté le salut, croyant en Dieu, puis ils étaient marchés dans l'onction de Dieu. Puis c'est ça que Dieu, Jésus a dit, vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer dans le royaume et que vous, vous serez jetés dehors. Il est en train de parler à des gens qui ne croyaient pas, qui essayaient de gagner le ciel en pratiquant la loi. C'est pas la loi qui sauve, la loi amenant la malédiction, c'est la foi. L'autre alliance que Dieu parle de faire. Puis il y a des gens, dans le temps d'Abraham, comme Abraham lui-même, croyaient en cette alliance-là qui s'en venait, même si c'était pas écrit comme nous autres, on l'a écrit. Dans ce temps-là, les écrits de l'Ancien n'étaient pas écrits. L'histoire s'écrivait à mesure. Toutes ces révélations-là, ils n'étaient pas là. C'est pour ça que la Bible a dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. On est dans ce temps-là où ce qu'on peut saisir le plan dans l'histoire parce qu'on est à la fin. On voit les choses, on les analyse. C'est plus facile pour nous de comprendre tout ça. Puis Dieu a commencé à le révéler aussi par des prophètes, cet autre plan-là, qui provenait pas de la capacité humaine. Mais dans ce plan-là, Dieu veut offrir le salut et tout ce qui vient avec, gratuitement, par une œuvre que Dieu va faire lui-même. Hallelujah! Alors, c'est accompli à travers de qui, cette œuvre-là? Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand Jésus est venu, Jésus, à un moment donné, il a lu un passage dans le Temple. Ça, c'est dans Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Jésus a lu un passage à tout le monde qui était là. Puis il était très intéressant. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Quand il a fini de lire ça, il dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » C'est ça le plus beau de la phrase. Ben, c'est beau l'autre phrase avec, mais c'est parce que ça, c'était une Écriture qui était écrite dans l'Ancien, prophétisée par un prophète qui annoncerait que l'Esprit du Seigneur sera sur lui. Puis c'est arrivé, quand Jésus était là, il a lu cette promesse-là de l'Ancien, puis il a dit, « Là, c'est accompli. » Ça désignait qui? C'était Jésus qui était le oint pour que la bonne nouvelle est arrivée, le salut par la grâce va s'accomplir et c'est l'année de grâce, l'année de bénédiction commencera. On est quoi? On dit à l'an de grâce 2009 après Jésus-Christ. Et ça, son calcul avec le calendrier romain, parce qu'ils sont trompés de 5 ans, ils sont en 2014 présentement, pour ceux qui ne savent pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Ben, c'était le calendrier juif. Puis nous autres, on est tombé sur le sol romain, puis ils se sont trompés de 5 ans en établissant la naissance de Jésus. Fait que l'an zéro n'est pas à l'an zéro. Ils se sont trompés de 5 ans. C'est à moins 5. En tout cas, c'est pas notre problème. Puis ça ne change pas grand-chose dans notre vie. On est encore dans les années de grâce qu'on pouvait recevoir cette bénédiction-là qui est écrite là. Puis qu'est-ce que ça promet dans cette bénédiction-là? Dans Bonne Nouvelle, c'est le salut, la vie éternelle gratuitement. Jésus y est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est quoi? Ton âme, les souffrances dans l'âme. Tu souffres dans ton âme. Jésus est venu pour te guérir dans ton âme. C'est une promesse de l'Ancien Testament. Il veut guérir notre intérieur. Il veut qu'on proclame aux captifs la délivrance. Il veut nous délivrer des liens, des chaînes, des malédictions de la loi, les malédictions d'Adam et Ève. Il veut nous délivrer de tous les problèmes que l'ennemi essaie de nous enchaîner. Il est venu pour proclamer aux captifs. Là, Jésus dit, t'es captif. Sois guéri, ou sois délivré de ton mal, soit, c'est, il proclame, puis les gens reçoivent. Qu'est-ce qu'il fait aussi aux aveugles le recouvrement de la vue? Ça assure la guérison physique. On a un commentaire, André.
Le Saint-Esprit qui est en Jésus, quand il dit, c'est accompli, le même Saint-Esprit qui est en dans toi aujourd'hui.
Gloire à Dieu.
Peut proclamer les mêmes promesses.
Oui.
Je pense que tout le monde ici peut y croire.
Oui.
C'est le même esprit de Jésus qui est en train de
nous. Oui, gloire à Dieu. Il veut donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça, c'est la guérison physique. Parce que l'autre, c'est guérison de l'âme. T'es ton cœur qui souffre, puis il y a ton corps qui est malade, peut être guéri aussi. Puis c'est Jésus qui donne les guérisons pour envoyer libres les opprimés. Parce qu'il veut qu'on s'épanouisse dans notre vie. Quand il dit « j'ai donné la vie pour qu'elle soit en abondance à ses brebis », pas en abondance directement qu'un compte de banque abondamment, mais si tu l'as, tant mieux, c'est pas mal. Mais principalement en abondance de joie, de bonheur, d'amour, de paix, de soit dans l'abondance de tout ce qui enrichit une personne aujourd'hui. C'est, Jésus veut le faire. T'es une personne privée, Jésus peut te le donner. Puis publier l'année de la grâce qui est commencée à ce temps-là pour être à l'an de grâce 2009 aujourd'hui. Puis comment qu'on voit dans la Bible que ça s'est concrétisé, cette parole-là? Jésus a dit, aujourd'hui, la parole de l'Écriture est accomplie. Mais comment ça s'est accompli? Dans Luc 4, tout à l'heure, c'était Luc 4, 18 qu'on lisait. Là, c'est Luc 4, 40, qui est juste un petit peu plus loin, quelques versets. Ça dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains sur chacun d'eux. Il les guérit. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu! » Déjà, la promesse est en exécution. Jésus, il dit, « Cette parole-là est accomplie. » Puis comment qu'elle se découle? Comment est-ce qu'elle passe en action, cette promesse-là? Jésus a commencé à la mettre en application. Les malades étaient guéris, puis les démoniaques étaient délivrés. C'est ça qui est l'application de la bonne nouvelle. Le salut est annoncé, les gens sont guéris et délivrés. C'est ça le plan de Dieu. C'est ce que Jésus a commencé à faire tout de suite après l'avoir dit. Un autre passage dans Matthieu 8 qui nous parle encore de la même idée. Matthieu 8, 16. Puis on va voir dans ce passage-là que tout ça, ça s'accomplit encore pour accomplir d'autres promesses qui étaient dans l'Ancien Testament. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin qu'il s'accomplisse ce qui était annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Jésus offre pas juste le salut, la vie éternelle, puis que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. On est privé de l'arbre de vie du début de la création. Mais en Jésus, tu peux recevoir la vie que tu peux manger à Jésus et recevoir de Jésus restauration dans ton corps, guérison dans ton âme, délivrance de tes chaînes, briser tous tes liens, une vie qui s'épanouit dans la présence de Dieu à goûter la paix, la joie, l'amour, de vivre dans le bonheur. C'est qu'on entend dans toutes nos prédications, mais tout ça, ça vient si tu manges à Jésus. La promesse est déjà là, ça s'accomplissait, puis Dieu avait déjà promis ça dans le temps de la loi, aux prophètes, qu'il y aura une nouvelle alliance que je ferai, puis ça ne sera pas basé sur nos mérites. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas à cause que je suis bon que je suis sauvé, c'est pas à cause que je suis bon que j'ai reçu une guérison ou une délivrance. C'est tout à cause du mérite de Jésus que Jésus a tout accompli. C'est à cause que Jésus est bon, que Jésus est Dieu, il a payé la dette de nos péchés, il a expié sur la croix nos péchés, nos maladies, nos infirmités. Tout est payé. On peut, si on croit, s'approcher de Dieu, s'approcher de Jésus, recevoir ce qui découle de cette onction qui a été donnée, v'là 2000 ans, manifestée sur la terre en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Cette onction-là, de cette nouvelle alliance-là, est commencée v'là 2000 ans, quand Jésus l'a prononcée, a commencé à s'étendre à travers de lui et des disciples. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, à cause de l'œuvre de Jésus, on peut obtenir ce qu'on ne pouvait pas obtenir par la loi. Puis qu'est-ce qu'on ne pouvait plus saisir non plus dans l'arbre de vie? Le salut, la guérison, les délivrances s'obtiennent par notre foi en Jésus. Les apôtres ont continué à faire le même chemin que Jésus. Ils croyaient dans cette même promesse. Jésus, quand il a envoyé ses apôtres, il leur dit... Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Puis annoncez la bonne nouvelle. Quand il y a du monde qui est envoyé par Jean-Baptiste, ils ont été voir Jésus pour le questionner, pour savoir si c'était vraiment lui qui était le Messie. Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Si Jésus n'est pas une occasion de chute pour toi, ça veut dire, si tu n'as pas honte de Jésus, puis tu n'as pas l'idée de dire, moi, Jésus, là, wow, là, je vais faire ma vie sur mon bord, moi, Jésus, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'était trouver en Jésus une occasion de chuter. Je ne veux rien savoir de Jésus. Tandis que nous autres, c'est le contraire. Jésus, oui, on veut ce que tu as à nous donner. C'est pour nous autres, c'est une promesse pour nous, pour nos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Les apôtres ont continué à faire la même mission que Jésus, puis ont été allés rapporter, tous les gens étaient témoins de ce qui se passait là, c'était pas des choses qui se passaient en secret. Quand même, des fois, il y avait un miracle qui était fait, tout le monde était étonné, peut-être des fois même les disciples étaient étonnés, là, quand ils ont vu Pierre tontir à la porte, il était sorti de la prison. Puis l'autre, la servante, elle va ouvrir la porte. C'est Pierre qui était à la porte. Il dit, t'es folle. Il ne croyait même pas qu'il était sorti de la prison. En réalité, il était tout en train de prier pour qu'il sorte, puis il était étonné de le voir sortir. Dieu délivre les captifs. Il peut te sortir de tes situations, de ta vie où t'es poigné. T'attends en silence son secours. C'est ça qui est à la règle qu'on a parlé comme introduction. Dans Marc 16, là, au verset 17, ça dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Parce que c'est dans le nom de Jésus que ça sort tout ça. Ils vont chasser les démons, vont parler de nouvelles langues, vont saisir les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu crois en Jésus? Tu as donné ta vie, toutes les promesses sont pour toi. Pas des promesses que tu vas mériter parce que tu pratiques la loi ou la religion chrétienne. Non, c'est à cause que tu as mis ta foi en Jésus. Toutes les bénédictions proviennent de Jésus à cause du mérite de Jésus. Donc, tout le monde ici peut se mettre à prier pour les autres. C'est pas à cause que tu es un balayeur dans l'église que là tu dis, ah ben moi je peux pas prier, c'est pas ma... Dieu, il peut guérir quelqu'un, c'est pas à cause de ton mérite, il peut guérir quelqu'un à travers de ta prière. La gloire vient pas à personne quand il y a une guérison. La gloire revient à qui? À Jésus, parce que c'est Jésus. Mais à Dieu, mais à Jésus, parce que Jésus, c'est lui qui fait la guérison. C'est pas nous autres. C'est pas par notre piété ou par notre propre puissance que les personnes vont être guéries. C'est à cause de la puissance du nom de Jésus qui est invoqué, et c'est Jésus qui répond à la prière. Toute la gloire revient à Jésus. Les bénédictions coulent toutes à travers du nom de Jésus. Tout ça dans Marc, il dit, « Voici mes miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils. » Il ne faut pas penser que c'est à cause de notre propre piété ou de notre propre puissance. C'est à cause du nom de Jésus que tout est là. Puis là, les apôtres voyaient plein de choses extraordinaires. Puis là, aujourd'hui, vous vous demandez, « Ouais, mais tout ça, c'est encore pour aujourd'hui? » Parce qu'il y en a qui ont des doutes, puis qui ont lâché de prier parce qu'ils ont eu des attentes trop longues, puis le doute est rentré, puis ils ont arrêté de demander. Ou il y en a d'autres qui ont demandé des affaires à Dieu. Dieu leur a dit non, moi je ne veux pas te guérir de cette affaire-là. Puis là, on arrêtera. Non, c'est pas à cause qu'on a eu certains points que Dieu nous a montrés, comme un exemple, Paul, quand Dieu dit, Paul il priait pour être guéri d'un problème, puis Dieu il dit, ma grâce te suffit, Paul. Puis là, il explique, ah, Dieu a permis que je garde ce problème-là parce que ça me gardait dans l'humilité, puis il fallait que je reste de même à cause de l'excellence des révélations que j'avais. Il fallait que je sois gardé dans l'humilité. Dieu lui a donné une réponse, non, pour ce point-là. Ça veut-tu dire que le lendemain, quand il y a une autre maladie ou un autre problème, qu'il ne l'aura pas demandé à Dieu? Non, il a continué à demander pour chacun de ses besoins. Ça dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Si pour un besoin, il dit non, celui-là, je veux que tu le gardes, continue à prier pour les autres affaires. Il ne faut pas se décourager. Ou s'il y a un délai, puis l'attente, on dit, hey, ça fait 50 fois que j'avance en avant pour faire prier pour moi. Ben, avance une 51e fois. Quand que Jésus a donné l'exemple de la veuve puis du juge inique, le juge, c'est à tôt. C'est le juge inique, c'est inique, ça veut dire méchant. Pas juste. Il ne voulait pas y donner raison, cette femme-là. Peut-être qu'elle avait de l'air méprisable, puis pour lui, il faisait du power trip. Puis là, il dit, là, moi, toi, c'est non, tu ne l'auras pas. Mais elle se disait, elle a la loi continuellement, tous les jours, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Elle lâchala, le juge, j'arrachais les cheveux de sa tête. Il dit, c'est pas parce que je suis bon là, que je vais l'exaucer. C'est qu'elle arrête de m'achaler. Là, Jésus donne cet exemple-là pour nous donner un exemple de ne point se relâcher dans la prière. Jésus dit, « Et Dieu tardera-t-il de faire justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? » Hey, c'est drôle, pareil. « Tardera-t-il à ceux qui crient nuit et jour? » Ça veut dire... Du monde qui prie jour et nuit, ça veut dire là, c'est 24 heures, puis bien des jours et des nuits que tu pries, puis là, il dit, vas-tu tarder? Ça veut dire que s'il y a un délai, pour lui, c'est pas un gros délai quand tu pries des nuits et des jours pour un problème. Puis il dit, il va finir par te le donner. Mais relâche pas, décourage-toi pas. Il dit, puis là, il se demande, vais-je trouver de la foi sur la terre quand je vais revenir? Est-ce que ça va être toute une gang qui ont tout abandonné, ils avaient tout baissé les bras? Ah, ben moi, j'ai essayé de prier trois fois pour que tel problème soit guéri, puis là, je ne demande plus. Ben là, tu ne l'auras pas. Faut que tu sois dans une conviction que Dieu veut te les donner, les affaires. Puis tant qu'il ne te dit pas non, tu as le droit de dire encore, je le demande, puis je le demande, puis je le demande, puis continue à le demander, Dieu veut que tu prennes cet exemple-là et que tu pries, puis que tu le demandes. Puis Dieu, il est content de voir des gens acharnés. Quand il dit les prières ferventes, juste ont une grande efficacité. C'est-à-dire, tu demandes de quoi, mais avec ferveur. C'est quelque chose que tu désires réellement. Pas, t'arrives, t'as le garçon qui arrive à son père, « Père, passe-moi 5$. » Le temps que tu mettes ta main dans ton portefeuille pour y sortir, il est déjà parti. Ça a l'air qu'il ne voulait pas le 5$. Laisse faire. Ou si c'est arrivé une journée que tu arrives, père, passe-moi 5$. Il dit non, il ne l'aura pas. C'est correct. Ça ne veut pas dire que le lendemain, tu ne peux pas y en redemander un autre 5$. Là. Cette journée-là, il y avait une raison de dire non, mais il ne faut pas se décourager et plus jamais demander rien à son père. Il y a des raisons pourquoi il dira non, mais il y a plein de raisons aussi qu'il pourra dire oui. Si tu l'achales, hein, par exemple, continue à chaler Dieu, tu vas voir sa main à jouer. C'est clair. Hein? Dis pas ça à mes gars. Là, qu'en est-il, cette bénédiction-là? qui est dans l'onction de Jésus depuis le début puis qui a passé à travers des apôtres. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh, mais c'est un miracle, ça, dans le temps de Jésus. » C'est juste pour dans le temps de Jésus.
Non.
Cette effusion-là de salut, de guérison, de délivrance, de bénédiction. Non, c'est pas... Puis on le voit où, ça? Y a-t-il un passage qui en parle? Oui, un passage dans les Actes au chapitre 2. C'est le dernier verset qu'on va aller voir. Acte 2, verset 17. Quand que le Saint-Esprit était répandu à la Pentecôte, que les gens ont tous été surpris de voir la puissance de Dieu en train de se manifester dans une apparition de langue de feu sur chacun, se sont tous mis à parler en langue, le vent impétueux, puis ainsi de suite, puis c'est quasiment wow! Tout le monde s'était tellement fort que toute la ville, il y a plein de monde dans la ville, se sont approchés. Si on avait un petit vent, là, un petit courant d'air dans l'église cet matin, je pense pas que ça attirerait le monde de voir. Ou même si on chanterait toutes nos forces, là, puis même on boosterait le système de son au bout, je pense pas que tout le monde dans la ville de Saint-Rémy va se ramasser dans l'église à cause de ça. Mais il s'est passé de quoi de grandiose et de puissant que plus de 3000 personnes qui étaient là dans Jérusalem ont entendu ça, puis ont tout accouru. Puis là, cette puissance de Dieu-là, Dieu voulait faire comme un effet spécial pour donner comme un saut à ses paroles. Il y a encore une promesse qui s'est accomplie à ce moment-là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont pris un passage qui est encore dans l'Ancien Testament, annoncé par les prophètes, qui reste effusion-là du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre. Puis là, il me parle de signes, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Ça, c'est les signes de quoi? Du retour de Jésus. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce verset-là? Premièrement, c'est une promesse qui annonçait l'effusion de l'Esprit, l'effusion des bénédictions, de guérison, de miracles, des signes, des prodiges, des miracles dans le nom de Jésus, puis que ça sera pour tout le monde, ses serviteurs, ses servantes, les jeunes gens, les vieillards. Tout le monde pouvait recevoir l'effusion de l'Esprit, voir la puissance de Dieu en action. Jusqu'à quand que ça va se manifester, cette puissance-là? Jusqu'à temps son retour, c'est ça que ça dit. Jusqu'à temps qu'on voit les signes, puis tout ça, puis qu'on voit Jésus retentir. D'ici à ce temps-là, de ce temps-là, de là 2000 ans, jusqu'au temps où on est rendu, la bénédiction de toutes les bénédictions écrites dans l'onction de Jésus, puis les miracles et tout ce qu'on va retrouver dans le Saint-Esprit, sont encore pleinement effectifs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore venu. Ça va être là jusqu'à temps qu'il revienne. Quand il dit dans les derniers temps, là, c'est pas que. Faut pas s'attendre que dans les derniers temps qu'on est rendu, qu'il va se passer un nouvel esprit, tout ça. Les derniers temps ont commencé où? À Pentecôte. Parce qu'elle venait de s'accomplir, cette promesse-là. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Tout le monde se demande, c'est quoi ce qui se passe? Puis là, Pierre le dit, c'est l'accomplissement de la promesse de Joël que dans les derniers temps, il y aura une effusion de la puissance de Dieu, des miracles, des signes, des prodiges. Puis que là, il y a une continuité de tout cela jusqu'à temps que Jésus revienne. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit encore tous ces miracles-là? Des fois, oui. Pas tout le temps. Pourquoi? Parce que des fois, on a besoin de se motiver à rester accroché. Des fois, on relâche. On a besoin de persévérance. On a besoin de continuer sans relâcher, de ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que les promesses sont là. Puis tous ceux qui s'accrochent aux promesses, par la foi, les obtiennent. Si on dit aujourd'hui, je les veux, les promesses. Je veux recevoir de Jésus les guérisons. Je veux recevoir les délivrances. Je veux que les chaînes soient rompues, les liens brisés. Je veux voir des signes, des prodiges, des miracles agir à travers ma vie. Parce qu'il veut nous utiliser aussi pour atteindre les autres, c'est ça que tu as dit dans ce texte-là. Les serviteurs, les servantes, les jeunes gens, les vieillards, tout le monde peuvent expérimenter la puissance de Dieu qui manifeste ces signes-là. Veut-on voir quelque chose se passer? Moi, je crois sincèrement que les églises aujourd'hui doivent manifester tout cela. Doivent être dans une attente de réclamer les bénédictions. Ça se peut qu'on se décourage, qu'on arrête. Mais il faut aussi qu'on se réencourage puis qu'on continue à s'accrocher parce que tout ça, c'est pour nous. Aujourd'hui, l'Église, puis le mot Église, c'est quoi? C'est le rassemblement des sauvés, le rassemblement des élus. Aujourd'hui, l'Église est un hôpital pour tous. Parce que c'est à travers de vos prières que Dieu va atteindre les gens. C'est à travers de nos intercessions, de nos persévérances dans la prière, c'est à travers de vos paroles que vous allez dire. L'Église, deux ou trois qui s'assemblent demander en mon nom, il dit, je suis au milieu de vous. Jésus est le centre de notre Église, puis je pense pas qu'on peut dire aujourd'hui, oh ben nous autres, on est tous assez capables de s'arranger tout seul, on pourrait être Jésus. Je pense pas, moi. On veut encore plus que Jésus agisse à travers de nous. Puis c'est ce qu'on va commencer à prier. On veut voir les choses changer. On veut que la puissance de Dieu passe. Puis qu'on veut que mon oncle, là, qu'il soit sauvé. On veut que ma tante puisse être guérie aussi. Puis on veut aussi que l'autre soit délivré. Puis c'est à travers de nos intercessions, comme c'était à travers de Jésus, à travers des apôtres. Puis aujourd'hui, c'est à travers de ses serviteurs et ses servantes que les miracles veulent passer. Pour accompagner la prédication de la foi, la prédication de l'Évangile. Il y a des gens qui souffrent ce matin. Je vous propose de vous avancer en avant. On va prier tout ensemble pour vous. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui attendent des exaucements de prière. Avancez-vous en avant. Faites un pas de foi. Vous avez un besoin. Vous voulez voir quelque chose changer. Avancez-vous en avant. On va prier tout ensemble. Puis continuez à prier après ça par la suite, puis attendez-vous que Jésus fasse quelque chose. Amen.